C'est marqué le ciel, quatrième partie. C'est parce que la c'est pas que le ciel est divisé en quatre, n'ayez pas peur. C'est que quand j'ai fait le premier message, j'ai pas eu assez de temps. J'ai fait le deuxième, le troisième. Là, on est rendu au quatrième. C'est pas vrai non plus. C'est que quand j'ai préparé tout le matériel, il y avait assez pour quatre parties. Et il va probablement y en avoir une cinquième. Donc, je vais demander votre patience. On va en avoir une autre. Donc, c'est le quatrième message là, que j'apporte sur le ciel. C'est un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur en montrant que la vie sur terre est plus facile lorsqu'on a une bonne vision du ciel, de ce qui nous attend là-haut et de qui nous attend là-haut surtout. Est-ce qu'on pourrait baisser les lumières juste un petit peu? J'ai bouillé mes lunettes de soleil un matin. La dernière fois ou l'avant-dernière, j'avais parlé des études ou des expériences là, de mort clinique, des gens qui vivaient à une espèce, ils voyaient, ils étaient presque morts, ou il y avait une espèce de tunnel avec une grande lumière et un être de lumière qui leur apparaissait, tout ça. Et il y a un livre qui a été écrit en 1975, ça fait presque 20 ans de cela, par M. Raymond Moody, qui s'appelle « La vie après la vie ». Et ça, ça a été un best-seller, puis bon, il y avait plein d'expériences là-dedans de gens qui avaient vécu ça. Et il y en a qui disaient « Ah bon, c'est ça, merci beaucoup, c'est ça la vraie vie, donc l'autre bord, peu importe ce qu'on va vivre sur la terre, l'autre bord, il y en a de lumière qui nous attend, peu importe ce qu'on va faire, c'est ça qui arrive, tout le monde vit ça. » Et j'avais parlé que, bon, c'était les médecins, les chercheurs ont réalisé que lorsque le cerveau est privé d'oxygène, il y a des expériences comme ça qui se passent. Et je lisais un article qui a été publié, je sais pas si c'est plus récent, là, au mois d'août 2013. Ce sont des chercheurs de l'Université de Chicago qui ont fait des expériences, mais cette fois-ci sur des rats. Ah. Des expériences sur les rats. Et ils ont anesthésié 9 rats, ils ont mis des électroencéphalogrammes pour analyser l'activité cérébrale lors d'une crise cardiaque. Et ils ont simulé une crise cardiaque sur chacun des rats. Et dans chacun des 9 rats, l'activité au cerveau était plus intense après 30 secondes, après l'arrêt cardiaque. Et c'était une activité qui, d'après eux, était organisée, qui était comme s'il était réveillé. Donc, le rat vivait des choses dans sa tête, même s'il était sur le bord de mourir. Et donc, ils ont conclu que probablement les gens qui vivaient des expériences comme ça, qui voyaient des aides de lumière ou des expériences un peu spéciales, c'est tout simplement le manque d'oxygène au cerveau et le manque de glucose, à cause que le sang ne circule plus. Et quand ça se diminue, ça va stimuler l'activité cérébrale. Et ils vont voir des choses un peu spéciales. Donc ça, c'est vécu au premier stade de la mort clinique. Ils ne sont pas vraiment morts parce qu'ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? J'ai enlevé ma montre, ça m'agace. C'est que peut-être qu'il va y avoir des rats au ciel. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est que les personnes qui disent qu'elles ont vécu des expériences comme ça, c'est 20% des cas, c'est pas tout le monde, 20%. Et la majorité, d'après moi, d'après eux, disent la vérité. C'est ça qu'ils ont vécu. Ils l'ont vécu. On peut pas dire que c'est pas vrai. Ils l'ont vécu. Mais sauf que ce n'est pas une rencontre avec Jésus. C'est tout simplement l'effet du cerveau qui fait ça, qui vient comme en effervescence là, 30 secondes après que les manques de sang au cerveau. Donc, ces personnes ne sont d'ailleurs pas réellement décédées. Et pour arriver face à face avec Jésus, pour le voir dans son paradis, il faut que le cordon final soit coupé, le cordon d'argent, comme dit dans l'Ancien Testament, et qu'on soit vraiment mort, qu'on ne revienne plus. Alors que lui, ces gens-là, qui ont vécu ces expériences-là, sont revenus, donc ils n'étaient pas vraiment morts. On en a un dans la Bible qu'on a entendu parler, c'est Lazare, qui a été mort pendant 4 jours, et Jésus l'a ressuscité. Et quand il est revenu, il n'a pas dit « Ah, laissez faire Jésus ». J'ai vu une grande lumière, puis ça fait pareil l'autre bord. Non. C'est que les Juifs voulaient tuer Lazare parce qu'il rendait le témoignage de Jésus. Les gens croyaient en Jésus à cause de Lazare. Donc, la Bible nous parle. On va enlever le rat, là. On va mettre la terre. La Bible nous révèle qu'au ciel, on va continuer d'être conscient. Vraiment conscient. Ça va être un endroit concret, réel. On va avoir une communion parfaite avec notre Sauveur, notre Seigneur. Communion parfaite les uns avec les autres. On va d'ailleurs être parfait. Ça va-tu être beau? On va avoir un nouveau corps, si on l'a vu, le nouveau corps qu'on aurait. Il va y avoir une nouvelle terre. Ça, c'est la terre actuelle. Elle est belle. Dieu l'a faite belle. Mais il va en avoir une nouvelle qui va être encore plus belle que celle-là. Les auteurs ne s'entendent pas si ça va être cette terre-là qui va être restaurée ou complètement détruite et une autre qui va être faite. On va en parler dans la cinquième partie de cela. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que je vais faire au ciel? Est-ce qu'on va se tourner les pouces? On va s'embêter? Est-ce que je vais me marier au ciel? Est-ce qu'on va se marier au ciel? On va regarder aussi, on va compléter notre relation particulière avec Jésus qu'on avait commencé la dernière fois. Et on va regarder aussi que nous avons été créés pour le ciel. Qu'est-ce qu'on vit sur la terre actuellement? On n'est pas bien là-dedans parce que dans notre ADN, Dieu a mis dans nous ce qu'on est fait pour être heureux dans un endroit parfait. Et c'est pour ça que c'est pas facile la vie. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on veut te remercier pour le temps qu'on peut mettre à part pour regarder dans ta parole ce que tu as à nous dire. Et je te prie d'être avec ton serviteur ce matin afin que je dise des choses qui soient conformes à ta volonté, à ta vérité, à ta parole. Et je te prie, notre Dieu, à travers les versets qu'on va lire, les enseignements, je te prie qu'il y ait des cœurs qui soient touchés, pas par moi, mais par toi, Seigneur. Par toi qui va leur parler, par ton esprit, à leur cœur. Et je te prie qu'il y ait des gens qui soient touchés, édifiés, Seigneur, et rapprochés de toi ce matin. Et on te demande ça dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce que je vais faire au ciel? On a vu la dernière fois ou l'avant-dernière qu'on va avoir une relation parfaite avec Jésus et les uns avec les autres. On va jouir de la présence du Seigneur, on va le voir face à face. Et l'apôtre Paul nous dit, aujourd'hui on le voit comme dans un miroir. Un miroir dans ce temps-là, c'était comme une plaque de tôle, c'était confus, diffus. Et même l'apôtre Paul, qui était allé jusqu'au troisième ciel, disait, on le voit aujourd'hui, mais comme dans un miroir, c'est pas clair. Mais un jour, nous le verrons face à face. Ça va être merveilleux. Donc, au ciel, on va jouir de sa présence. On va avoir une extase devant lui. On va l'adorer, l'aimer. Communion intime avec lui. Et des fois, on se dit, ouais, mais pour l'éternité. Ouh, il me semble qu'on va... Ça va être trop. Non, on va l'aider. Aujourd'hui, on est sur la terre. On a eu un temps d'adoration tantôt de louange. Je vais prendre une marche dans le bois, je vais voir le ciel, les arbres, je dirais pas belle neige, mais c'est beau la neige des fois. Toutes les beautés de la création, ça m'amène à louer Dieu. Donc, on va avoir une nouvelle terre, nouveau ciel, nouvelle création, nouvelle chose que Dieu va avoir fait. Je n'ai pas vu un millième de qu'est-ce qu'il y a sur la terre actuellement. Mais nouveau ciel, nouvelle terre, on va pouvoir se déplacer plus facilement. Et tout ce qu'on va voir va nous... Ah, oh, Seigneur, oh, t'es grand, t'as fait ça. Pas juste toujours le regarder, mais tout ce qu'il va avoir mis, tout ce qu'il va avoir fait, tout ce qu'on va savoir qu'il est pour nous, quand on va réaliser combien il nous aime, on en aura passé l'éternité pour dire, être en extase devant lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va nous montrer. Puis, comme je viens de faire allusion, on va découvrir nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc, mon message est sur le ciel, mais la Bible parle qui va avoir des nouveaux cieux. Donc, le ciel tel qu'il est actuellement va être changé, même le ciel. Et la terre va être changée aussi, il va avoir une nouvelle terre. On peut regarder quelques versets. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, ça dit, « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, promesse de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, c'est l'apôtre Pierre qui est inspiré du Saint-Esprit, qui dit qu'il va avoir un nouveau ciel, nouvelle terre. Et ici, il fait allusion à la justice. On sait que sur la terre actuelle, il n'y a pas nécessairement de justice. Un autre verset que nous retrouvons dans l'Apocalypse, qui est à la fin pratiquement, le verset, chapitre 21, verset 1, qui dit, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc, ça va être vraiment renouvelé, ça va être nouveau. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et la mer n'existait plus. Donc, le système hydrogéologique va être différent. Il n'y aura plus de mer comme on l'a actuellement. Il va y avoir des fleuves d'eau vive, par exemple. OK? Donc, puis on n'en aura pas assez l'éternité pour découvrir tout cela. Beaucoup de choses à voir. Quand on fait des voyages, c'est pour découvrir des choses, voir des nouvelles choses. Mais on n'aura peut-être plus besoin de prendre l'avion quand on va dans notre nouveau corps pour découvrir des nouvelles choses. Aussi au ciel, on va avoir des responsabilités, on va travailler, on va réaliser des choses. On va occuper des fonctions particulières que Dieu va nous attribuer dans son royaume. Parce qu'on va être dans un royaume, royaume de Dieu, là où Dieu va être roi, là où Dieu va régner. Et il nous dit dans sa parole que même on va régner avec lui. J'ai un peu de misère à comprendre ça, que moi ou vous, les saints, on va régner avec Dieu. Mais c'est lui qui le dit. Il dit même qu'on va être assis sur son trône. On va le voir dans Apocalypse 5, 10. Ici, Jésus parlait, il dit, « Tu as fait d'eux, en parlant de nous, un peuple de rois et de prêtres. » Dans la version Louis II, on dit un peuple, au lieu de prêtres, on parle de sacrificateurs. « Au service de notre Dieu, ils régneront sur la terre. » Ici, prêtre, c'est parce que dans l'Ancien Testament, le juif ordinaire ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Mais c'est seulement le grand prêtre qui pouvait aller dans la présence de Dieu. Et maintenant qu'avec la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré, nous sommes tous des prêtres ou tous des sacrificateurs qu'on peut aller dans la présence de Dieu. Ici, on voit que c'est comme au passé. Hein? Tu as fait d'eux. Donc, c'est passé. Donc, actuellement, nous sommes des rois, des prêtres au service de notre Dieu actuellement. Et ils régneront, c'est futur. Actuellement, ils régneront sur la terre. Donc, à venir, on n'a pas l'impression de régner actuellement sur la terre. Et donc, ils régneront, c'est à venir. Un autre verset, c'est encore dans l'Apocalypse, au début, lorsque Jésus parle à l'église de la Laodicée, il dit le vainqueur. Donc, c'est-à-dire le chrétien qui tient bon jusqu'au bout. Je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Jésus a remporté la victoire à la croix, il est ressuscité, il est allé siéger à la droite de Dieu sur son trône. Hey! Puis il nous dit, vous autres aussi, vous allez venir régner avec moi. Moi, ça me dépasse. Mais c'est dans la Bible qu'on va régner sur son trône avec lui. Tout un privilège, tout un privilège. Donc, une des activités qu'on va faire, ça va être de régner, diriger, contrôler ce qui va se passer sur la terre et dans la nouvelle terre, dans le nouveau ciel. On présume que Adam travaillait dans le jardin d'Éden parce que, c'est marqué dans Genèse 2,15 que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Adam travaillait dans le jardin. C'est pas juste après le péché, après que le péché soit entré dans le monde, la malédiction, là Dieu a dit, tu cultiveras maintenant à la sueur de ton front. Ça sera plus tellement plaisant maintenant de travailler. Tu vas avoir chaud, tu vas suer. Mais le travail, c'est plaisant. Surtout avant la chute, le travail c'était une activité qui était vraiment plaisante. Dieu aussi travaille, Dieu crée, Dieu soutient toutes choses. Dieu s'occupe de nous et il nous a créés à son image, et nous aussi, on va faire des choses. On va participer à son royaume comme des sujets, ou même comme des petits rois avec lui. Je ne sais pas trop comment ça va être, mais on ne s'ennuiera pas. Un autre verset dans Matthieu. Ça, Matthieu 24, c'est le chapitre où on parle des signes de la fin. OK? Là, on est rendu à la fin du chapitre de Matthieu 24. Ça dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Il l'établira sur tout ce qu'il possède. Dieu va nous établir sur tout ce qu'il possède. Puis on voit, j'ai souligné l'établi sur ces gens, responsabilité, pas juste sur terre ici, là, pas juste de faire des choses matérielles, mais responsabilité auprès des autres. Ça me ferait pas en voyant ça. Donc, Dieu nous établit, si on peut dire, ici, dans ce cas-là, c'était de donner la nourriture au temps convenable, donc, pourvoir aux besoins des autres, s'occuper des autres. Donc, le Seigneur nous a tous établis actuellement sur terre pour nous occuper des autres, les uns des autres. Donc, si le Seigneur nous établit, nous donne un petit peu d'autorité, c'est pour le bien des autres, pour leur avancement. Donc, celui qui fait ça, comme Dieu lui a demandé, ben au ciel, c'est marqué, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais il y en a beaucoup de gens qui vont être comme ça. Nous allons être au ciel. Est-ce qu'on va être tous établis sur tout ce qu'il possède? C'est un peu dur à comprendre, mais il va nous... Donc, moi, je n'aurai pas le contrôle sur tout, et il n'y en a pas un autre qui aura le contrôle sur tout. J'ai un peu de misère à comprendre, mais j'avais un début de réponse dans quand je regarde la Genèse. Genèse 1, 26. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit, tu vas dominer sur les reptiles, les animaux, les poissons des mers. Tu vas dominer sur la terre. Non, dominer sur toute la terre. Dieu a dit à Adam, tu vas dominer sur toute la terre. Mais Adam a eu des enfants, puis ses enfants ont eu des enfants. Donc, c'est pas juste Adam qui dominait, c'était tous les hommes qui dominaient sur la terre. C'est sûr que les hommes avaient autorité sur les poissons, on le voit encore aujourd'hui, sur les animaux. L'homme a créé des grandes choses, des fois trop grands, des grands barrages, des grandes tours, etc. Donc, l'homme domine sur la terre, mais c'est pas un seul homme qui domine sur tout. Et quand je crois que Dieu dit, il l'établira sur tout ce qu'il possède, ben, j'aurai beaucoup de possibilités, mais c'est pas juste une personne qui va tout régler. Vous comprenez? Donc, on va, le Seigneur va nous permettre de jouir, de profiter, de régner, de s'occuper de toutes ces choses. Ça lui appartient, puis c'est lui qui va nous le donner. Et on voit que si on est établi comme ça, c'est parce qu'on a été fidèle auprès des autres. À répandre la parole, à enseigner, à nourrir, à aider, à soutenir, à prier pour eux. Donc, notre fidélité ici-bas va nous donner une plus grande autorité puis de plus grandes responsabilités sur la terre. Ce qu'on fait actuellement influence directement notre service au ciel. Et comme je disais, ce ne sera pas un travail qui va être dur, qui va nous déplaire, mais ça va être quelque chose qui va nous définir, qui va nous satisfaire, on va avoir un accomplissement là-dedans. Dieu va nous communiquer son amour, on va être constamment en relation intime avec lui, les uns avec les autres. Oh, j'ai hâte. La Bible parle aussi, excusez-moi, je ne peux pas m'en empêcher, de récompense et de couronne. On n'ira pas voir dans les détails quelles sont les couronnes. Ceux qui font le cours Discipola, pour les nouveaux chrétiens, dans ce cours-là, on fait référence aux 5 couronnes dont la Bible parle. Il y a différents versets, on ne les regardera pas tous. Il y a la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne incorruptible, la couronne de joie, la couronne de gloire. Il y a des versets qui disent que ces couronnes-là vont nous être données. Certains vont avoir toutes les couronnes, d'autres vont en avoir quelques-unes. Ce sont des récompenses. Donc, c'est pour la façon dont on va avoir exercé un ministère auprès des autres sur la terre et que Dieu va nous donner ces couronnes-là. Est-ce que on peut prendre ça littéral? Il y a 5 couronnes. Si on le prend littéral, ça me prendrait 5 têtes pour les mettre. Donc, celui qui remportait une palme, gagnait, pouvait avoir une couronne qui était corruptible. Maintenant, on va avoir une couronne incorruptible au ciel. Donc, c'est pas au sens littéral, mais ce sont des récompenses. De quoi ça va ressembler, je ne sais pas, mais les gens vont le voir. Tout le monde va le voir. Et j'ai une citation ici de John MacArthur qui parle des récompenses. Il dit, « Les récompenses du croyant ne se portent pas sur la tête comme une couronne. » Notre couronne au ciel sera notre capacité d'y servir Dieu. Les couronnes célestes sont ce dont nous ferons l'expérience. La vie éternelle, la joie éternelle, le service éternel, la félicité éternelle. Et j'ajouterais, parce que la Bible en parle souvent, la gloire éternelle. Donc, ces récompenses-là, ces couronnes-là, sont, je crois, beaucoup plus précieuses qu'on peut l'imaginer sur terre, qu'on peut penser que c'est. Quand on va être au ciel, on va dire, waouh, c'est ça les couronnes qui nous parlaient. Ça va vraiment être précieux. Et ces couronnes-là ne sont pas pour les œuvres que je vais avoir accomplies par mes propres forces ou pour des mauvais motifs. Parce qu'on a vu déjà qu'au tribunal de Christ, les œuvres qui ont été faites pour des mauvais motifs, par mes propres forces, ils vont comme brûler comme de la paille. Les seules œuvres qui vont rester, c'est celles qui vont être comme de l'or, de l'argent. Et ce sont les œuvres que Jésus va avoir produites à travers moi. On peut même regarder un verset ici qui nous parle de ces œuvres-là. Dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, donc nous sommes créés par Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Dieu nous a fait pour cela, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, je n'ai aucun mérite dans les œuvres que je vais pratiquer. Et donc, les couronnes, je vais les mettre aux pieds de Jésus. Je vais dire, tiens, c'est à toi le mérite. On ne pourra même pas s'en glorifier, ces couronnes-là. Donc, autre point, est-ce qu'on va se marier au ciel? On va regarder, je n'ai pas le verset ici, on va tourner dans Matthieu, chapitre 22. On va mettre de quoi sur le mariage? Matthieu, chapitre 22, verset 23 à 30. Donc, l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 23. Ici, ce sont les Sadducéens. Les Sadducéens qui ont posé une question à Jésus. Eux, les Sadducéens, c'était une branche là des Juifs. Là. Eux, ils ne croyaient pas à la résurrection, même s'ils croyaient en l'Ancien Testament, ils ne croyaient pas que la résurrection existait, et ils ne croyaient pas aux anges non plus. Eux autres, ils croyaient ce qu'ils voyaient. Ce qu'ils voyaient pas, ils croyaient pas. OK? Et Jésus prêchait la résurrection et la vie. Puis on dit, on va lui boucher, on va le boucher, on va lui poser une question, il ne pourra pas répondre. OK? Donc, au verset 23, ça dit, « Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui tinrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, il mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Si j'avais été le 7e, je pense que je n'aurais pas marié, moi. J'aurais eu quelques réserves. Mais c'est une colle, tu sais, c'est pas arrivé pour vrai. Verset 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme, car tous l'ont eu? Donc, ça voulait dire, ils ont été mariés 7 fois, ils vont ressusciter, ils vont se ramasser au paradis. Qui va l'avoir au ciel, la femme? Hein, Jésus? Je t'en ai posé une bonne. Donc, verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur. » parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, il n'y aura plus de mariage entre hommes et femmes au ciel. Donc, il répondit à leur question. La résurrection, il n'y en aura plus de mariage entre hommes et femmes. Et on va être comme des anges. Et ça ne veut pas dire qu'on va être tous comme là, là avec des anges comme ça, là, puis on va voler, puis on tue des nuages. Là. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas aux anges. C'est pour ça que Jésus l'a rajouté. On va être comme des anges dans le sens que on n'aura pas de sexualité ou il n'y aura pas de... Je sais pas s'il va y avoir un... On va se rappeler que je suis un homme, que ma femme est une femme, je le sais pas. Mais on va être comme les anges qui ne se marient pas. C'est pour ça que ça veut dire. Comme les anges ne se marient pas entre eux. Ça va être comme ça. On ne se mariera pas entre nous. Désolé, mesdames, là, pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mariage au ciel entre les gens qui vont être là. Entre les gens qui vont être là. Maintenant, la réponse est oui et non, parce qu'on va se marier aussi au ciel. Ah oui? Je vais m'abîmer ici. On va se marier au ciel avec Jésus. Dans 1 Corinthiens 11, 2, la deuxième partie, ça dit, Paul, « Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille vierge. » Ici, je vous ai dans la culture juive, il y avait les fiançailles. Et les fiançailles, à ce moment-là, c'était pratiquement un mariage. Pour que les gens rompent les fiançailles, c'était pratiquement un divorce ou le décès d'un de l'autre. Les fiançailles, c'était vraiment coulé dans le béton. C'est pour ça que quand Joseph a su que Marie était enceinte, il voulait la laisser rompre secrètement. Pas trop faire de bruit avec ça. Donc, nous sommes fiancés actuellement, on prend encore le temps des verbes. Je vous ai fiancé, dans le sens que lorsque Paul a conduit les Corinthiens au Seigneur, il les a fiancés à Jésus. Donc, nous sommes fiancés à Jésus actuellement. Nous sommes engagés vis-à-vis de lui, il est engagé vis-à-vis de nous. On ne peut plus rien enlever à cela, c'est coulé dans le béton. Mais je vous ai fiancé pour vous présenter à un époux. Dans la culture juive, les fiancés, ça durait longtemps. La personne pouvait être fiancée de 5 ans jusqu'à 20 ans. Là. Mais à un moment donné, il y avait une grande fête, plusieurs jours, et le père de la fille présentait l'épouse à l'époux. Et c'est un peu comme ça, Paul dit, pour vous présenter au Christ, comme une vierge pure. Donc, Paul dit, j'ai hâte de vous présenter à Jésus comme une vierge pure. Pour être son épouse à ce moment-là, pour le mariage définitif. Donc, la relation qu'on va avoir avec Jésus au ciel va être si intime, si intense, elle va nous procurer tellement de joie, elle va nous combler tellement que la relation avec notre époux, notre épouse, ne nous manquera pas. On va tellement être comblés, on va avoir une relation suprême avec le Seigneur. Aujourd'hui, on est fiancé avec Jésus. On profite d'une intimité avec lui. On le connaît encore partiellement. Un jour, ça va être complet. On va être vraiment unis à lui lorsqu'on va voir face à face. Donc, notre besoin d'intimité dans une relation exclusive avec quelqu'un du sexe opposé, c'est dans le plan de Dieu. Et ça répond au besoin qu'il a créé chez nous d'être avec un autre ou une autre. Mais au ciel, ce ne sera plus besoin. Et l'intimité émotionnelle qu'on va vivre avec les autres saints et avec Jésus en particulier, ça va vraiment être précieux. Mais c'est un nouveau type de relation qu'on ne comprend pas encore. Et puis même pour les gars, des fois, c'est plus dur hein, qu'on va être l'épouse de Jésus. Tu sais, les filles, quand Jésus va revenir, « Ah, l'époux vient nous chercher. » Puis les gars, nous autres, « Ah, l'époux. » Mais c'est parce qu'on ne comprend pas encore. Ça ne sera pas une relation comme aujourd'hui, homme et femme. OK? Et j'ai, en réfléchissant là-dessus, j'ai pensé, dans le plan de Dieu, on a comme une espèce d'évolution. On regarde dans Genèse, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, lorsqu'un enfant il est jeune, il est attaché à son père et à sa mère, puis c'est juste ça, puis il a besoin de ça. En grandissant, t'as pas besoin. C'est comme automatiquement, là, il a le désir de le séparer de sa mère et de s'attacher à sa femme. Mais quand il est jeune, il n'a pas le goût de ça pantoute. OK? Puis il ne comprend pas c'est quoi une relation entre un homme et une femme. Mais plus il grandit, plus il commence à comprendre. Et quand il est avec sa femme, là, il comprend. C'est un peu comme ça avec Jésus. Là, on est rendu, c'est comme si là, Jésus nous disait un jour, tu vas quitter ta femme, tu vas quitter les tiens, puis là, tu vas aller t'attacher encore plus au Seigneur. Le jeune, lui, comprenait pas qu'est-ce que c'était de s'attacher à sa femme. comme nous, on ne comprend pas encore cette relation intime avec Jésus. Mais on va avoir une relation qui va vraiment être satisfaisante, grande, qui va nous combler. On n'aura plus besoin de l'intimité d'une personne de l'autre sexe. Je vous donne un exemple. Quand j'étais un enfant, je fus un enfant. Mettons, lui, il a peut-être 10 ans. Mettons, j'avais 5-6 ans. Ben, la femme de ma vie, c'était ma mère. C'était pas mal ça pour tous les enfants, là. C'est pas. Donc, puis notre père aussi était là, notre protecteur. Donc, j'envisageais pas de quitter mon père et ma mère parce que ma mère, c'était ça qui me donnait ma sécurité, besoin d'affection, d'amour. Et je connaissais pas le verset qui disait qu'un jour je quitterais mon père et ma mère pour m'attacher à ma femme. Puis ça me passait pas dans l'idée aussi que j'aurais besoin de faire ça. Si à 6 ans on m'avait dit, quand tu vas être grand, là, tu vas avoir des relations sexuelles avec une femme, puis il m'avait dit exactement comment on fait pour avoir des enfants. J'aurais dit, Burke. On est-tu obligé de faire ça pour avoir des enfants? Moi, je suis un prêtre. Ça aurait été ma réaction. L'enfant. Donc, à cause de l'étape où j'étais rendu dans le plan de Dieu, je ne comprenais pas en tout, entre un homme et une femme, comment ça pouvait se passer. Si je reporte ça actuellement, ma relation avec Jésus, je comprends pas en tout comment ça va se passer. Assez, suffisamment. Parce qu'un jour, Paul a dit, je connaîtrai comme j'ai été connu quand je vais le voir face à face. Donc, il y a des choses que je comprends pas encore. Paul disait, je comprends en partie seulement. L'enfant, lui, quand j'étais enfant, j'avais pas le développement physique et psychologique pour comprendre c'est comment ça fonctionnait entre un homme et une femme dans le mariage. Ça me dépassait. Mais j'ai grandi. Et dans le plan de Dieu, j'ai évolué, j'ai changé. Ça s'est fait tout seul. Et quand je vais arriver face à face avec Jésus, cette nouvelle relation-là, époux-épouse, que je comprends pas actuellement, 100%, je vais comprendre. Je vais dire, waouh! C'était ça que tu voulais dire. Est-ce que Jésus va nous aimer plus au ciel? Moi, je vais l'aimer plus parce que on va être face à face, on va comprendre comment on a été aimé. Mais Jésus ne nous aimera pas plus parce qu'il nous aime, il ne change pas, puis il va toujours continuer de nous aimer parce qu'il est mort pour nous à cause qu'il nous aime. Mais c'est moi qui vais être capable de reconnaître cet amour-là. En Corinthiens 13, 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » J'ai parlé de ça tout à l'heure. D'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Même Paul qui avait vu jusqu'au troisième ciel, des choses qu'il ne pouvait même pas répéter, qui ne pouvaient pas se traduire en langage humain, disait, je connais partiellement. Mais alors, je le connaîtrai comme j'ai été connu. Un jour, je vais voir combien Jésus m'aime, combien il veut que je sois près de lui, et combien il m'a fait pour être avec lui, il nous a fait pour lui. Et il n'y a pas une personne sur terre qui a la capacité de m'aimer autant que Jésus. C'est un amour puissant, grand, complètement désintéressé. Une autre petite parenthèse, c'est que Jésus va habiter avec nous au ciel. Dieu, on peut dire Dieu parce que c'est l'Ancien Testament. On voit, dans le Jardin d'Éden, Dieu venait marcher. Je sais pas s'il marchait, il parcourait. Ça dit, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, dans le Jardin d'Éden, dans le paradis, Dieu allait se promener là. Donc, Dieu était présent sur la terre avec Adam et Ève. Et dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, c'est sûr que Jésus va être là. Maintenant, dans l'Apocalypse, nous avons un autre verset à la fin de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Le mot tabernacle, ça veut dire habitation, maison. Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Donc Dieu va habiter avec nous, il sera avec eux, proche de nous au ciel. Et dans le psaume 16, verset 11, sa présence va nous combler. Ça dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Et on va aller à la droite du Seigneur un jour, et il va y avoir là des délices éternels. Supposément, je mange de quoi de délicieux. J'en mange, à un moment donné, flouc. Mais Dieu, ça va être des délices éternels. On ne va jamais se tanner. J'étais allé dans un voyage à un moment donné, puis il y avait une épice qui s'appelait la coriandre. J'aimais bien ça. Puis tous les animaux goûtaient ça. Le coq, il aimait ça, il en mettait. C'était bon. Mais après une semaine, la coriandre, ça me levait le cœur. Je n'étais plus capable de manger. Même aujourd'hui, je ne suis plus capable. Fait que toutes les bonnes choses sur terre, on dirait qu'elles seront stannes. Mais au ciel, ça va être des délices éternels. On ne se tannera jamais. Savez-vous qu'on a été créé pour le ciel? C'est comme pas normal ce qu'on vit actuellement. À l'origine, Dieu a créé Adam et Ève pour une existence éternelle dans un lieu parfait, sans douleur. Il y avait l'arbre de vie qui a été perdu dans le jardin d'Éden, qui va être retrouvé dans le nouveau ciel, nouvelle terre, qui guérissait toutes les maladies. Mais là, on n'a plus accès à ça. Cet arbre-là permettait de vivre éternellement, mais Dieu a enlevé l'accès pour pas qu'on vive éternellement dans notre péché. Mais on a été coupé du paradis du ciel, mais en dedans de nous, on ressent toujours l'attrait pour une existence éternelle dans un lieu parfait. C'est l'endroit qui nous est destiné. Que dans notre ADN, Dieu nous a fait comme ça pour être heureux, pour vivre dans le paradis, mais là, on ne l'a pas. Okay? Et qu'est-ce que Dieu a mis en nous? On ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas y faire abstraction. « Ah, moi, je veux être malheureux. » Je veux être malheureux. Personne ne dit ça. Tout le monde veut être heureux. Ceux qui se suicident, bien souvent parce qu'ils recherchent le soulagement dans le suicide. Okay? Parce qu'ils sont trop malheureux. Et on a besoin, Dieu nous a fait pour qu'on ait besoin d'excitation, de ravissement. Et au ciel, on va l'avoir. Et sur la terre, beaucoup de gens cherchent ça. On aime ça faire des « wow ». Check ça, man. « Wow ». Tu veux ça? Les filles, ouf! Monsieur! On a comme besoin de ça. Je me suis pratiqué avec Marjolaine hier. Elle ne savait pas. Elle m'a montré comment faire. C'est qu'on a besoin de. D'extase, d'excitement, de quelque chose de spécial. C'est normal qu'on... Et si on ne le trouve pas en Jésus, malheureusement, on va chercher ailleurs, sur terre. J'ai une citation ici de M. Peter Greft, j'espère qu'il ne m'entend pas prononcer son nom. Il a écrit, « Personne ne peut vivre sans ravissement. » C'est d'ailleurs ce qui explique que l'homme privé de joie spirituelle se tourne dans les plaisirs de la chair. On a besoin de « wow », on a besoin d'excitement, de quelque chose de spécial. Et ça explique peut-être pourquoi il y a tant d'humoristes au Québec, les gens ont besoin de rire, de s'extérioriser. Okay? Et si ma relation avec Jésus n'est pas satisfaisante, quand la tentation va arriver, ça va être beaucoup plus dur de résister à la tentation. Et ça va être plus facile de tomber dans le péché parce que ma relation avec Jésus n'est pas suffisante. Et j'ai été créé à l'image de Dieu avec un désir d'éternité, de perfection, d'immortalité. J'ai une soif pour une paix durable, une joie éternelle. Si vous écoutez les messages de nouvel an, la joie, la paix, le succès. On aspire tous à ça. Bien souvent, ce sont des mots creux parce que on sait qu'on a beaucoup de difficultés à l'obtenir sur la terre. J'ai aimé ce que Benoît a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plus d'intimité avec Jésus. On peut rien demander de plus. On peut rien demander de plus. Ça comble tous nos besoins. Salomon nous disait que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils agissent comme s'il était éternel. Ils accumulent, puis ils pensent qu'ils vont vivre 400, 500 ans. C'est pas normal, la mort. On pense qu'on va vivre tout le temps. On a toujours des projets. Une citation ici de C.S. Lewis, il dit « Si je découvre en moi-même un désir qu'aucune expérience ici-bas ne saurait satisfaire, l'explication la plus plausible serait que j'ai été créé en vue d'un autre monde. » Donc, Dieu nous a créé pour un autre monde. C'est temporaire ce qu'on a ici, là. OK? C'est temporaire. Donc, Dieu m'a créé pour un autre monde. Il n'y a rien sur terre qui puisse me satisfaire. Le seul qui peut me satisfaire, c'est Jésus. C'est là que quand on vient à Jésus qu'on voit que, wow, vraiment, je suis créé pour être uni avec lui. Et des fois, je peux me dire, ah ben, si j'avais telle chose, je serais heureux, je l'aurais le bonheur. Si j'avais pas telle maladie, tel handicap, tel patron, je serais heureux. Mais il n'y a rien dans le monde qui va me rendre heureux. Même le roi de Salomon qui a tout eu, il avait l'argent, la gloire, tout, il a fait tout ce qu'il voulait, il a dit, tout est vanité et poursuite du vent. Lui, il a goûté à tout. Et Jésus a dit à la Samaritaine, dans Jean, chapitre 4, verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Donc, sur le bord du puits, Jésus a demandé de l'eau à la Samaritaine, puis il lui a dit, « Si tu bois de cette eau, là, tu vas avoir encore soif. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire de l'eau, on a besoin pour vivre, mais on va avoir encore soif, toujours soif, et il n'y a rien sur terre qui va étancher notre soif. Ou quiconque ramassera beaucoup d'argent va toujours en manquer. Ça pourrait être paraphrasé un petit peu. Ça ressemble à ça. Une citation ici d'un acteur, Jim Carrey, qui a dit, il dit, « Je trouve que tout le monde devrait faire fortune, devenir célèbre et faire tout ce dont il a toujours rêvé pour voir que ce n'est pas la réponse. » Lui, il a goûté à tout. Mon père a toujours pris des billets de loto. « Ah, je pouvais avoir le million. Si, je pouvais avoir le million. » Un bateau, telle affaire. Il l'a jamais eu. Il est mort comme ça. Mais je pense qu'il était chrétien quand même, mon père. Sur les derniers temps, on a vu qu'il avait changé. Donc, ça ne l'aurait jamais rendu heureux. Une autre citation, M. Beecher écrit, « Ainsi les hommes continuent de soupirer, sans savoir ce que leur âme désire, sachant uniquement que leur âme a besoin de quelque chose. Nos désirs ardents correspondent à notre mal du pays céleste. » On s'ennuie de la maison. On s'ennuie de la maison parce qu'on a été créé pour ça. On est fait pour fitter là-dedans. Puis on n'est pas dedans. On n'est pas dedans encore. Donc, le désir d'avoir une vie parfaite, c'est normal. Parce qu'on a été créé pour ça. Et on est frustré parce qu'on dit, ben la vie, elle devrait pas être comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et même en vieillissant, on perd notre jeunesse physique. Et dans notre tête, même si on perd nos moyens ou on va les perdre, on est encore jeune. Tu sais, quand tu as 50 ans, 60 ans, tu dis, voyons, il me semble, j'ai l'impression d'être un ado dans ma tête. Tu sais, je me sens, peut-être pas autant, là, mais, tu sais, parce que l'esprit ne meurt pas, l'esprit et notre âme est éternelle. Mais au ciel, qu'est-ce qui va au ciel me combler autant? Excusez-moi. J'ai pas bien posé la question. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a au ciel qui va me combler autant? C'est pas une bonne question. Je devrais poser plutôt la question, qui au ciel va me combler autant? Ça, c'est la bonne question. C'est Jésus. Si Jésus n'est pas au ciel, j'irai pas. Supposément, je suis fiancé, et je me marie, on s'en va dans le sud, faire notre mariage dans le sud, et j'arrive là, puis mon épouse n'est pas là. Alors, j'aimerais bien mieux me marier en Alaska sur une banquise avec elle que d'être toute seule à sécher sous un palmier dans le sud. Comprenez? Donc, c'est sa présence qui fait la différence. Mais si elle est là, dans le sud en plus, ben, il y a sa présence et il y a tout le reste. Comme Jésus va créer, actuellement, il nous a fait une terre dans laquelle on vit, on a une relation avec lui. Nouveau ciel, nouvelle terre, Jésus va être là encore. Le plus important, ça va être Jésus, c'est lui qui va être notre bonheur parfait. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont être là aussi, que Jésus va nous permettre de profiter et qui va, en voyant ces choses-là, on va le glorifier, on va le remercier. Puis tout ça vient de lui, c'est encore lui qui a créé. Dans le fond, Jésus, c'est lui qui est tout, qui a tout créé, qui a tout fait. Sans lui, on n'a rien. On n'a rien. Mais au ciel, il n'y aura pas juste lui. Il va y avoir toutes d'autres choses qu'il va avoir créées. Il va avoir vous et moi. Il va avoir la nouveau ciel, nouvelle terre, toutes ces choses qu'il va nous donner. Mais tout dépend de lui. Et sans lui, plus rien. Plus rien. Donc, c'est lui qui est le ciel, qui va rendre le ciel merveilleux. Ici, c'est Job. Il dit, c'est lui, en parlant de Dieu, c'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit en dedans de moi. Donc, lui aussi, il était très malade et il croyait qu'il allait mourir. Et il avait hâte d'arriver face à face avec Jésus. Et son cœur languissait, il avait hâte de le voir, de le contempler. Puis il disait pas, ah, j'ai hâte d'être débarrassé de ma souffrance. Non. Ce que j'ai hâte, c'est de le contempler. Ses souffrances, c'était pas grave, c'était sa soif de contempler son Sauveur. Puis il disait ailleurs, je sais que mon Rédempteur vit. Mais en attendant, je suis encore sur la terre. Je suis encore sur la terre. Et on ne voit pas Jésus encore face à face, on le connaît partiellement. Sauf que on ne doit pas dire, bon, je vais m'asseoir sur mon salut, puis au ciel, je verrai bien. Je vais le voir face à face, je n'aurai pas d'effort à faire. C'est pour ça que Jésus nous a demandé. Jésus nous a demandé de venir à lui, de boire constamment à lui. Et j'ai une citation ici de Hudson Taylor, qui est un missionnaire en Inde, pas en Inde, en Chine, dans les années 1800. Et sa femme est décédée alors qu'il était sous le champ missionnaire, il avait 4 ou 5 enfants. Sa femme est décédée, elle avait 32 ans seulement, après 12 ans de mariage. Et ça aurait pu l'éloigner du Seigneur, nuire son ministère, mais voici qu'est-ce qu'il écrivait. Il dit, « Je me demande souvent s'il est possible que celle qu'il m'a reprise éprouve en sa présence plus de joie que moi. » Là, il disait, « Ma femme est au paradis avec Jésus. » Puis il me demande, lui, il vivait une relation tellement intime avec Jésus qu'il disait, « Ça se peut quasiment pas que qu'est-ce qu'elle vit, elle vit plus que moi. » Tellement il était comblé. Tellement il était comblé. Il ajoute, « S'il l'a prise au ciel, il a fait descendre le ciel en moi, car il est le ciel. » En sa présence, il y a une plénitude de joie. C'est sûr qu'il y avait des combats, puis il pleurait, des fois de l'amertume, mais quand il revenait à Jésus, Jésus le comblait complètement. Puis il y avait cette paix si grande qu'il se demandait s'il n'était pas plus heureux sur terre que sa femme pouvait l'être au ciel. Donc, ça débordait. Malheureusement, on n'a pas tous cette même intimité avec Jésus. Et Hudson Taylor, après plusieurs années de ministère, un moment donné, il y a eu comme un revirement dans sa vie. Même s'il était chrétien depuis quelques années, un de ses amis lui avait écrit une lettre dans laquelle il insistait sur certains versets particuliers dans l'Évangile de Jean, où il parlait que si tu as soif, tu dois venir et boire. On va regarder quelques versets à ce sujet-là. On a vu que Jésus a dit... Jésus dit à la Samaritaine... « Quiconque boit cette eau aura encore soif. » Ça, c'est Jean chapitre 4, verset 13. Ensuite, il y a le verset 14. C'est pour moi qui ai la manette chez nous, ça paraît. Donc, Jean 4, 13, ça dit, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. » Encore. Tout de suite après, il dit « Mais ». Ah, mais l'espoir. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'ai souligné l'eau que je lui donnerai parce que Jésus le répète. C'est pas n'importe quelle eau. Hein? L'eau que lui va nous donner. C'est quoi avoir soif? Jésus dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. C'est quoi avoir soif? Une soif sur terre, c'est une souffrance. C'est un besoin non comblé. C'est une vie aride, sèche. C'est l'épreuve. C'est la misère. Ça va pas bien. Et il y a des personnes ici qui ont soif. On a tous soif. Certains plus que d'autres. Mais il est impossible que la vie comble tous nos besoins. Impossible. C'est pas péché d'avoir soif. On peut pécher dans la façon dont on va combler cette soif-là. Prenons la Samaritaine. Jésus lui a dit, tu as 5 maris, et celui qui est avec toi actuellement, c'est même pas ton mari. Donc, on peut présumer que la Samaritaine avait des problèmes avec les hommes. Donc, pour elle étancher sa soif, elle avait besoin constamment d'un nouvel homme, pour qu'elle soit toujours en amour, l'amour passionné du début. Elle avait besoin de ça. Jésus est venu la chercher. Il n'a pas dit, t'es pas correct, fais pas ça, non. Non. Si t'as soif, viens à moi et bois. Il n'a pas reproché son péché, elle s'en est rendue compte elle-même. Et si j'ai pas cette vie en abondance en Jésus, je vais adoucir mon mal de vivre par des choses qui, en guillemets, je pense qu'ils vont me faire du bien, qui vont me faire plaisir. Ça peut être des dépendances. Dépendance à la boisson. Ah, oh, je me sens mieux. La drogue. Fuir dans la drogue. Pornographie. Ça peut être fuir dans mes pensées, dans la rêverie. Fuir le réel. Ça peut être même fuir dans le travail, l'activisme, rechercher les biens matériels. Donc, c'est partout où je cherche le bonheur ailleurs qu'en Jésus, le bonheur et l'épanouissement. Mais Jésus, lui, est mort de combler cette soif de façon durable. On est ici dans Jean 4, Jésus parle à la Samaritaine. Ensuite, nous allons dans Jean 7, où Jésus, à ce moment-là, ici, s'adresse à la foule. Excusez. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc, Jésus a pris un jour un lieu où il y avait beaucoup de monde. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc ici, le dernier jour, le grand jour, Jésus, se tenant debout, s'écria. Bien souvent, on entend Jésus qui dit, Jésus s'assit dans la barque, Jésus était sur la montagne, parla. Là, ici, on voit que Jésus est debout, puis il crie. Ah, peut-être qu'il y a quoi d'important à dire, hein? Peut-être. Supposément, moi, je suis assis, OK? Puis là, je vois que le toit est en train de tomber, OK? Puis là, je dis, est-ce que je peux avoir une minute d'attention? Si vous ne l'avez pas vu, regardez le toit, il va vous tomber sur la tête. M'avez-vous bien compris? Mais supposément, si je suis assis, puis là, je vois qu'à cause du poids de la neige, le toit est en train de tomber, qu'est-ce que je vais faire? Attention! Le toit tombe! Allez-vous-en! Donc, parce que c'est important, c'est une question de vie ou de mort, si vous restez là, vous allez vous faire écraser. C'est pour ça que là, Jésus dit, il se met debout, puis il crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il me semble, ça a l'air simple. Pourquoi il a crié? Pourquoi il criait ça? Mais ceux qui ne viennent pas à Jésus pour boire sont perdus. Pour l'éternité. C'est important, mais c'est pas important. C'est encore plus important qu'un plafond qui va tomber. Donc, si tu réalises pas que tu as soif, que tu viens pas à moi pour avoir la vie éternelle, tu es perdu. Donc, Jésus s'est levé, il a crié, venez à moi, venez à moi. Si vous avez... Les gens ont sans doute pas tous compris là ce qu'il voulait dire. Mais quand il y a eu le Saint-Esprit, ils ont compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et l'apôtre Jean l'a rapporté ici. Donc, si quelqu'un a soif, J'ai dit, c'était quoi la soif? C'était un besoin, souffrance. Et ici, on a le mot « quelqu'un ». Ça ressemble un peu au « quiconque » de Jean 3,16. Quand on dit, quand Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, on met notre nom, afin que Yvan croit en lui. Donc ici, on peut dire, si quelqu'un, mettez votre nom. Si Yvan a soif, si Claude a soif, si Jean-Guy a soif. Donc, si ton nom a soif, avez-vous soif? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que c'est difficile? Si c'est ça, qu'il vienne à moi. Donc, on doit venir à Jésus. On ne peut pas boire si on est loin. On ne peut pas boire si on est loin. Donc, il faut être près de lui pour boire à lui. Et si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, ceux qui sont chrétiens aujourd'hui sont venus à Jésus. Ils ont accepté son salut. Si vous ne l'avez pas fait encore, j'encourage à le faire, à reconnaître pas uniquement votre vos épreuves, mais à reconnaître votre péché, votre sécheresse spirituelle, que ça vous conduit en enfer pour l'éternité. Ils ont accepté que Jésus a pris la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris à votre place ce que vous méritiez sur la croix. Et quand il dit s'y croire, celui qui croit en moi, croire ici, c'est lui faire confiance totale pour vous sauver et lui demander de vous sauver. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous encourage. La plupart ici, nous sommes déjà venus à Jésus. Nous sommes sauvés. Donc, mais ça se peut-tu qu'on ait encore soif? C'est drôle, hein? Lorsque j'ai cru en Jésus, j'ai bu. J'ai bu ce qu'il me donnait, son eau vive, le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'étais passionné de lui. Je pensais juste à ça, il était l'objet de mes pensées, j'étais en amour avec mon Sauveur, je dévorais sa parole. Puis les difficultés de la vie, ben, c'était pas si pire. T'sais. Ah, le Seigneur est tellement grand. Puis on dirait que, avec le temps, la passion s'est estompée. Mon premier amour s'est fané. Et est-ce que Jésus a changé? Jésus est le même. Où sont les fleuves d'eau vive qui m'ont coulé? Où ils sont, les fleuves d'eau vive? Je sens que c'est sec, aride. Mon cœur est aride, même froid. Jésus nous invite à boire. Et le mot boire ici, c'est pas tu bois une fois pour toutes. Comme physiquement, si je bois une fois dans ma vie, c'est sûr que quelques jours après, je vais mourir. Donc, boire, c'est tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est pas, Seigneur, je t'ai accepté, je suis sauvé maintenant. Je m'occupe de la balance, là. Du reste, mais je suis sauvé, là, je vais aller au ciel. Je vis ma vie comme je voudrais. Non. C'est venir à Jésus constamment. Et ici, il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Donc, le mot « croit en moi » s'explique un peu c'est quoi boire. Boire, c'est comme croire en Jésus. Et croire, c'est pas juste savoir qu'il existe. Mais c'est mettre une confiance totale en lui. Totale. Totale qu'il est souverain, qu'un jour, je vais être au ciel avec lui, que ça va être vraiment merveilleux. Mais qu'en attendant, il est avec moi, puis qu'il me soutient. Et que les épreuves que je vis actuellement, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien, pour me rapprocher de lui. Et lui demander qu'il me montre par son esprit combien il m'aime et combien ce que je vis, c'est rien par rapport à la félicité qui m'attend. Et que lui est là présent. C'est une personne réelle qui peut être à côté de moi, me soutenir. Il est là. Donc, mettre toute notre confiance en lui totale. Un autre verset ici, dans 1 Pierre 5,7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Comment est-ce qu'on peut se décharger sur lui s'il est loin? Donc, il faut venir à Jésus. « Jésus, je veux me rapprocher de toi, je veux venir à toi. » « Ah, des soucis, j'en ai. » Puis, si je t'ai donné, ça ne veut pas dire qu'on s'en allait. Sauf que je te donne mes épreuves, les choses difficiles que je vis, en te les donnant, mes soucis vont comme tomber parce que toi, tu vas en prendre soin. Pourquoi je peux me décharger sur lui? Est-ce que en me déchargeant sur le Seigneur, c'est un manque de responsabilité? Oh, je m'en occupe plus, tiens, Seigneur, coûte-toi-en. Non. Seigneur, je te les donne. Je ne veux plus m'inquiéter. Je continue de m'en occuper de ces choses-là, parce que je dois m'en occuper, je suis responsable, mais je ne veux plus m'en inquiéter. Je sais que tu es là. Et laissez-moi vous dire que la pression va baisser pas mal. Et qui va s'en occuper? Un ange? Regardez le texte. Car lui-même, lui-même, déchargez-vous sur lui, car lui-même, en personne, il va s'en occuper. On a chanté tout à l'heure dans le chant « Le bon berger ». Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. Ton bras n'est pas trop court au sein de mes détresses. Jésus est capable de venir nous chercher, de nous soutenir. Et est-ce que je dois faire des efforts pour boire? C'est dur boire. Hein? Facile, tu bois. C'est simple, c'est facile. Mais je dois reconnaître mon incapacité à me sortir moi-même de mes épreuves. Et quand j'ai été sauvé, est-ce que j'ai fait des efforts? J'ai accepté son salut gratuit, je me suis abandonné à lui, il m'a sauvé. Et c'est le même principe, je viens à lui boire, c'est « Seigneur, je te fais confiance, je crois en toi, je sais que c'est toi qui va me soutenir, tu es là. » Donc, c'est pas des efforts, mais je dois m'abandonner à lui, tout simplement, et lui va faire le reste. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc, pour nous, ben, c'est un langage de vigneron. Nous, on pourrait dire « Je suis le tronc de l'arbre, vous êtes les branches. » OK? On peut comprendre comme ça. Si j'ai un arbre, et le tronc, c'est Jésus, moi, je suis la branche. Est-ce que la branche fait des efforts pour que la sève, elle coule dans elle? La branche, elle se laisse faire. Seule chose qu'elle a à faire, c'est de rester branché, connecté, rester, demeurez en moi, Jésus disait, et la sève va couler d'elle-même. La sève va couler d'elle-même, simplement attachée. Et étant une branche de l'arbre, je fais partie du corps de Jésus. Je fais partie du corps de Jésus. Et j'ai pas besoin de faire des efforts pour me reposer en lui, tout simplement m'abandonner, compter sur lui pour me consoler, me soutenir. Et qu'est-ce que vous vivez actuellement? C'est pas la fin de l'histoire. Vous êtes dans le combat. Mais la victoire est assurée, on a vu tantôt, au vainqueur, je donnerai. La victoire, elle est assurée. Donc, on connaît la fin. Actuellement, le déroulement, ça semble compliqué. On n'est pas capable tout seul. On a besoin de Jésus. Et si on vient à lui, on croit en lui, on s'abandonne à lui, des fleuves d'eau vive vont couler en nous. Il va nous remplir à déborder de son Saint-Esprit. Et cette eau vive-là, c'est pas abstrait, hein? C'est vraiment réel. C'est Jésus, sa vie, qui va couler en moi par le Saint-Esprit. Et comme la sève qui coule dans la branche, c'est la même qui vient de l'arbre. Et la vie de Jésus qui coule en moi, c'est la vie qui coule déjà en Jésus. Cette vie-là, elle est déjà en Jésus. Il continue, il y a des vers sur nous, si on est branché à lui. La même vie. Hey, quelque chose, ça? La vie de Jésus qui coule en moi. Est-ce qu'on va en manquer? On n'en manquera pas. C'est rafraîchissant. En plus, on va à lui pour qu'il comble nos besoins. En plus, Jésus va nous révéler à quel point il nous aime. Puis là, quand on va découvrir combien il nous aime, on ne pourra plus pas. On va aller à lui, pas pour qu'il nous soutienne dans nos épreuves, mais parce qu'on veut lui. C'est lui qu'on va vouloir avoir. C'est lui. On ne pourra plus s'en passer. On ne pourra plus s'en passer. Et on va être capable de l'aimer comme il demande. Il demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Donc, en étant intime avec lui. Et l'aimer de toute notre pensée, c'est penser souvent, presque tout le temps à lui. Donc, boire constamment à lui. Dans l'épreuve, je peux avoir des pensées qui sont pas positives, des doutes. Et on sait que l'ennemi envoie des traits enflammés pour nous faire douter. Et c'est son travail, lui, de nous faire douter de Jésus. Et Jésus veut que par la foi, on résiste aux traits de l'ennemi et qu'on comprenne la réalité. Et c'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on enseigne, c'est pour ça qu'on écoute des prédications, pour nous ramener à la vérité que Jésus veut qu'on ait. Et comme j'ai dit, on ne boit pas une fois pour toutes. On boit constamment. Demeurez constamment en Jésus. Et je vous invite à faire constamment confiance à Jésus, même si la vie semble vous dire le contraire. Ah, Jésus, tu n'as pas répondu à ma prière. Ah, qu'est-ce que fait Jésus, tu ne réponds pas? Il nous dit, j'ai quelque chose de plus grand pour toi en réserve. Donc, si tu as soif, si j'ai soif, Jésus nous invite à venir à lui. Possible que tu sois arrivé ici ce matin avec un fardeau. Pas possible, mais c'est sûr qu'il y a des gens ici qui ont un fardeau. Ou deux. C'est pas facile. Mais Jésus, ce matin, il t'invite. C'est pas moi, c'est Jésus. Si tu as soif, viens à moi et bois. Abondamment. Mets ta confiance totale dans Jésus pour le reste. Il va te soutenir, il va t'en occuper. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Lui-même prend soin de toi. Si vous voulez, on va terminer dans la prière. Je vais vous inviter à remettre vos fardeaux sur le Seigneur. La prière va aller dans ce sens-là. Pendant que je vais prier, les gens qui s'occupent, qui font la louange, vous pouvez avancer. Seigneur, je suis peut-être arrivé ici ce matin avec un fardeau sur mon cœur. Peut-être que mon cœur est sec, je suis découragé. Ou que la vie chrétienne, c'est pas vraiment abondant pour moi. Seigneur, je veux venir à toi. Seigneur, j'ai essayé par moi-même de m'en sortir. J'essaie de me raisonner, mais ça fonctionne pas. Le fardeau est trop lourd, trop pesant. Et je crois que c'est normal parce que seulement toi qui peux le supporter, moi, je suis pas capable. Je suis écrasé. Seigneur, je veux mettre toute ma confiance en toi, mais j'ai de la difficulté. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, aide-moi à te faire une confiance totale en toutes choses. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux que tu prennes ma place dans cette épreuve. Et Seigneur, merci pour cette paix que tu me donnes, ou que tu vas me donner, Seigneur. Merci pour cette vie qui va couler abondamment en moi. Merci, notre Seigneur, parce que tu m'aimes. Et je veux, Seigneur, t'aimer, je veux goûter à ton amour. C'est sûr que c'est au ciel que je vais savoir réellement comment tu m'as aimé. Mais Seigneur, je veux sur terre et tu peux le faire. Je veux que tu me montres à quel point tu m'aimes. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te demandons ces choses. Amen.